France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le camp de concentration de Mauthausen-Gusen est l'un des plus grands d'Europe. Dégageant un profit immense, c'est un camp qui pratique l'extermination par le travail, au bénéfice d'entreprises participant à l'effort de guerre nazi. C'est également un camp où s'organise une véritable résistance solidaire et internationale. Les déportés parviennent par exemple, dès 1944, à constituer des réserves d'armes grâce aux détenus qui travaillent dans des usines d'armement. Ils mettent également en place, vers la fin de la guerre, des stratégies de déstabilisation des SS, les mettant en face du choix qu'ils auraient à faire lors de la libération du camp. Car pour les nazis, du moins initialement, hors de question de laisser ces ennemis du Reich, ces prisonniers à peine humains, être libérés. Ils avaient installé partout dans le camp des explosifs, comme recours pour exterminer tous ces prisonniers si le camp devait être abandonné. Ce 17e de 27 épisodes, par Francis Crémieux, de la série Le Monde Concentrationnaire, revient sur la libération de Mauthausen et les jours qui l'ont précédé, entre résistance et menace d'extermination massive, comme le racontent Pierre Dex, Gérard London, André Taverdé et Émile Vallée, dans cette émission diffusée pour la première fois le 18 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, l'heure de la libération dans les camps, Mauthausen. Entretien avec Pierre Dex, Gérard London, André Taverdé et Émile Vallée.
Nous allons essayer ce soir de faire revivre par quelques survivants la libération du camp de Mauthausen. Je voudrais tout d'abord demander à Gérard London, qui a longtemps été un des dirigeants du comité international, de nous dire comment les choses se sont structurées plusieurs mois avant la libération.
Nous avons organisé parallèlement avec les directions et les groupes politiques des groupes de combat militaire.
À partir de quelle époque?
Nous avons pris les dispositions au printemps 1944 et les premiers groupes ont été réalisés en automne 1944 déjà. Grâce aux camarades espagnols qui travaillaient dans un atelier où on réparait les fusils, les pistolets, les armes pour la SS, on avait réussi à faire pénétrer clandestinement dans les camps quelques armes, les cacher, les enterrer. Ensuite, nous avons réussi à constituer des dépôts d'armes à l'extérieur du camp, accessibles en cas d'action par les groupes de combat. Nous avons établi un plan concret des camps, des patrouilles, des tours, et nous avons même opéré des différentes manœuvres avec des groupes de combat et pris les dispositions pour la libération du camp par nos propres moyens, en cas d'approche du front.
Comment s'est fait la libération du camp?
La libération du camp s'est produite pas tout à fait selon nos prévisions, mais quand même tout le travail que nous avions réalisé durant notre détention était un travail très utile et a porté ses fruits.
Quand on mène une bataille de cet ordre, comme celle qu'ont menée les concentrationnaires de Mauthausen, il y a un facteur moral important. Pierre Dex, est-ce que vous avez été amené sur le plan de la démoralisation à prendre contact avec les SS?
Dans les circonstances de la fin du camp, ça a été une décision. On a été un certain nombre de détenus à avoir pour tâche d'aller voir les SS avec qui nous travaillions, commando-führer, et de les mettre devant le choix qu'ils feraient si l'on leur donnait l'ordre de faire sauter le camp.
Bon, vous avez eu cette tâche, vous l'avez exécutée?
Je l'ai exécutée avec le SS qui s'occupait du bloc dont j'étais le secrétaire adjoint. Enfin, un jour qu'il passait devant le bloc, je suis allé le trouver. On entendait le canon russe et je lui ai dit « Bon, quand les Russes vont venir jusque-là, qu'est-ce que vous allez faire ?» Il m'a dit « Moi, je ne ferai rien. » Je lui ai dit « Bon, vous ne ferez rien, mais les explosifs qui sont sous le sec, Mauthausen était une forteresse. En » fait. Il m'a dit « Comment savez-vous qu'il y a des explosifs ?» J'ai dit « Écoutez, tout le camp le sait fort bien. Si en tout cas vous participez à l'extermination massive, vous savez très bien que, quelles que soient les choses, il restera toujours assez d'entre nous pour aller dire que vous y avez participé et ne jamais vous foutre la paix là-dessus. » Il m'a dit « Je peux vous dire, c'est que si jamais un jour ils veulent faire sauter le camp, je vous le dirai. »
Vous avez l'impression que les démarches de vos camarades ont donné les mêmes résultats auprès de...
Personne n'a été tué dans ces démarches. L'essentiel des choses, vous comprenez, c'est que au cours de ces démarches, alors qu'un certain nombre des nôtres pensaient que le seul fait de les tenter aboutirait à nous faire tuer, puisque c'était pratiquement la preuve que nous nous mêlions de ce qui ne nous regardait pas.
C'était février-mars 45.
Février-mars 45. Vous voyez maintenant que ça a l'air trop facile de raconter ces choses. Mais à l'époque, c'était pas clair du tout. Dans la tête d'un certain nombre des nôtres, vous voyez, il y avait le courant tout de même qu'il ne fallait pas irriter les SS, qu'il ne fallait pas les mettre dans des choix, enfin un certain courant d'attentisme. Quand on en parle 20 ans après, on a l'air d'accabler les gens qui avaient ces choses-là dans la tête. Mais n'oubliez pas que la morale des camps était très stricte à ce point de vue, qu'il ne fallait pas chatouiller l'épiderme des SS. Parce que quand on chatouillait l'épiderme des SS, il en résultait des représailles collectives sur le camp d'une extrême gravité, et ça c'était la morale non écrite des camps. C'était l'ordre, littéralement l'ordre des détenus dans lequel nous vivions. C'est-à-dire que les détenus arrangeaient eux-mêmes leurs propres affaires, ne mêlaient jamais les SS à leurs propres affaires.
Ce qui signifie que si vos démarches décidées par le collectif de résistance, oui, à la majorité, à l'unanimité, peu nous importe. Si vos démarches...
Écoutez, dites pour être plus exact, dans le cas de cette démarche, exécutée en accord avec certains membres du collectif de résistance. Je suis incapable de vous dire si sur ces plans précis, il avait pu y avoir une décision exacte et ce n'était pas une décision minoritaire. Je vous dis ça pour la précision des choses, je n'en sais rien.
Il reste que si ces démarches avaient échoué, vous
je
auriez été...
Je
ne
serais pas là pour vous le raconter. Dans l'ordre des choses, on était pendu le lendemain, enfin. En plus, vraisemblablement, il y avait des représailles, c'est juste. Si on avait fait une erreur de calcul, c'est vrai. Mais vous, nous étions sûrs d'avoir... Enfin, c'est difficile à dire aussi parce que, bon, dans une certaine mesure, le succès justifie et tout. Mais nous faisions ça quand même dans un certain cadre de choses. Et nous étions amenés, en cette période, à prendre des décisions de plus en plus en rupture avec tout ce que nous avions fait auparavant.
En essayant ce soir de dire ce qu'a été la libération de Mauthausen, nous avons d'abord fait témoigner Gérard London et Pierre Dex, qui n'étaient pas au camp lors de sa libération. Voici maintenant André Taverdet, qui n'était pas au camp 3 jours avant la libération, mais qui était dans un commando extérieur à 6 kilomètres du camp central, à Gouzen. Est-ce que, arrivant au camp, vous avez déjà pu connaître les contre-mesures qui étaient préparées contre l'extermination prévue par les SS?
Avec les contacts que nous avions eus avec Mauthausen, ainsi que des contacts qui ont pu être pris avec des résistants autrichiens, nous avions réussi à nous procurer quelques armes. Très peu, je dois-je dire. Mais malgré tout, nous entraînions des camarades, des groupes de 3 avaient été formés, dans chaque nationalité, avec des responsables, et chacun avait sa tâche au moment de la libération. Si les SS avaient voulu nous entrer dans les tunnels et nous exterminer, nous devions essayer de prendre le camp de force. Ça aurait été certainement un massacre, mais enfin, nous aurions peut-être réussi. Vers le 20 avril, nous avons appris par le Comité international de la résistance de Mauthausen que des accords étaient passés entre Himmler et les Alliés pour... nous soyons, les Français, soient rapatriés par les soins de la Croix-Rouge. Et en effet, comme nous nous trouvons sur le bord de la route qui va de Mauthausen à Linz, déjà le 24 avril, nous avons eu passer des camions de la Croix-Rouge qui emmenaient les femmes qui avaient été repliées de Ravensbrück à Mauthausen. Nous en avons donc appris que nous allions remonter au camp central. Mais les SS, avant de nous le faire remonter au camp central, ont exterminé dans les blocs de rivière tous ceux qui, soi-disant, n'étaient pas capables de revenir en France. Les blocs de rivière ont été hermétiquement fermés, et nous ont lancé des grenades à gaz pour les exterminer. Donc, le 28 avril, nous avons été appelés sur la place d'appel, tous les Français et les quelques Belges qui étaient avec nous, et nous sommes remontés à Mauthausen, à pied, encadrés par les SS. Nous étions tous dans un piteux état. Nous sommes partis, je me souviens du chiffre, à 726. Nous avions emmené une charrette parce que tout le long de la route, nous avons ramassé les morts. Donc le 28 avril, nous sommes arrivés à Mauthausen et nous avons été parqués toute la nuit le long de la baraque des douches. Et le lendemain, nous avons été remis dans des blocs avec des Polonais. Déjà, les SS commençaient à fuir, étaient remplacés par des agents de police de la ville de Vienne, tous très âgés d'ailleurs. Nous avons attendu, tant bien que mal, en essayant de nous organiser. Vu la fuite des SS, le comité de résistance de Mauthausen a commencé à prendre le camp en main. Il n'y avait plus aucun SS à Mauthausen. Ils s'étaient tous retranchés sur la rive sud du Danube. Ils ne pouvaient guère aller plus loin, parce que les Russes avançaient à l'est, les Français étaient dans le Tyrol, les Américains étaient dans le nord ainsi que les Anglais, et il y avait les partisans yougoslaves dans le sud, qui tenaient les montagnes.
Est-ce qu'il y avait des armes ?
À Mauthausen, il y avait des armes.
Est-ce que vous en connaissez la quantité ?
Il est très difficile de dire la quantité. Je crois qu'il faudrait mieux interviewer mon camarade Vallée, qui était membre du comité international de résistance à Mauthausen, ainsi que notre camarade espagnol Razzolin, qui pourront donner mieux que moi les effectifs. Le 5 mai arrivent au camp central des éléments avancés de l'armée américaine, une voiture blindée et une voiture légère, qui est tout étonnée d'ailleurs de trouver un camp de concentration dans ces parages, et qui nous disent devoir se replier, leur rôle n'étant pas d'occuper le camp. Donc à ce moment, les miradors qui étaient tenus par les agents de police de Vienne, ils sont désarmés, nous ne leur faisons aucun mal, ils n'avaient participé à aucune tuerie, et nous prenons les armes. Le comité national forme des milices armées, et craignant le retour des SS qui étaient harcelés de toutes parts, nous avons établi le long du Danube une ligne de combat. Des engagements ont eu lieu le 6, car en effet les SS ont essayé de repasser le Danube, et un de nos camarades espagnols a été tué. Ensuite, le 7, l'armée américaine, avec le gros de ses forces, est arrivée, et se sont occupés eux-mêmes d'anéantir les éléments SS qui se trouvaient au sud du Danube.
Vous avez rendu les armes à ce moment-là ?
Ben, c'est-à-dire que nous avons été obligés de rendre les armes, parce que les Américains nous ont désarmés.
Je demanderai maintenant, pour conclure, à M. Émile Vallée, qui fut le représentant du collectif français au comité international de Mauthausen pendant ces jours de libération, de nous dire ce qui s'est passé avant le départ des SS et après leur départ.
Premièrement, nous contactons l'ensemble des déportés français venant d'autres commandos, entre autres le père Jacques, le commandant Godin, le passeur Buchenschuss, et nous formons déjà notre comité national. Ceci en vue de prendre un contact plus étroit avec le comité international pour prévoir toute action militaire. Parce que la grosse chose, nous savions que l'extermination pour tous était décidée par les SS.
Et comment vous le saviez ?
Nous savions par l'intermédiaire d'un membre du comité international qui avait un contact étroit avec un SS. À Mauthausen, il était question d'empoisonner toute la nourriture. L'action du comité clandestin était premièrement d'avertir l'ensemble des nationaux de l'action qui se préparait en vue d'une autodéfense contre les SS. La grosse chose, c'était surtout de tenir en alerte constamment les déportés en vue de prévoir une offensive des SS revenant sur Mauthausen. Je précise bien celle-ci, après le 2 mai.
Le départ des SS, comment s'est-il produit ?
Eh bien, nous avons vu un bon matin que d'autres gardiens étaient dans les postes de tour. Mais comme qu'il en soit, ils étaient simplement secondaires, parce que les SS restaient quand même à l'appareil de direction centrale. Qu'ils s'appellent Siraes ou Bakmeyar, les deux principaux, ils sont restés jusqu'à la fin. Et ils ne sont partis qu'effectivement que le 4 mai pour le regroupement d'ensemble en vue d'une action contre le camp. Nous étions en alerte sans arrêt, nous avions toujours des camarades de garde, les armes qui avaient été rentrées au camp grâce à nos camarades espagnols qui travaillaient à l'armurerie, était prête à entrer en action. Et je veux dire même que des couteaux aussi étaient préparés, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y avait dans le camp, avant le 2 mai, environ 25 revolvers, et nous avions même deux mitrailleuses qui étaient cachées sous les planchers et que nous avons pu sortir au bon moment. Il y avait aussi des grenades et il y avait aussi de la dynamite qui venait de la carrière de Mauthausen. Mais naturellement, c'était nettement insuffisant.
Donc je suppose que militairement, il y avait des commandos.
Il y avait environ 10 camarades par nation. La brigade de choc, en vue d'une action rapide, et qui lancerait ensuite la prise de l'armurerie. parce que l'armurerie se trouvait pas très loin de l'entrée du camp, et nos camarades espagnols qui travaillaient avaient préparé déjà un certain stock qui pouvait être récupéré par les déportés. Lorsque le 5 mai, après le départ des SS, les policiers qui étaient pris entre les SS d'une part et les déportés ont hissé le drapeau blanc sur la tour à la place du drapeau hitlérien, ça a été, n'est-ce pas, une ruée sur l'armurerie. Et c'est là, n'est-ce pas, que ceux qui étaient armés ont encadré tous les plus valides pour aller récupérer les armes qui se trouvaient dans l'armurerie des SS. Je sais que les policiers autrichiens étaient décidés, n'est-ce pas, à abandonner toute la partie et qu'en aucune manière, ils voulaient se battre contre nous. Mais ils avaient peur des SS qui se trouvaient encore massés sur Enns et sur le village de Mauthausen lui-même. Ils avaient peur aussi que, voyant l'action des déportés, soit eux qui payent pour les SS d'être même exterminés. C'est pourquoi ils étaient prêts à toutes les concessions et nous informer de l'action que menaient Bachmeyer et Siraes.
C'est-à-dire les dirigeants SS.
Les dirigeants SS du camp. Mais ce qui était le plus important, à mon avis, cette entente et cet appareil militaire et du comité international et nationaux qui a fonctionné dès l'arrivée du 5 mai des Américains. Donc prise des armes des SS, formation de bataillons, et nous, pour les Français, on a formé immédiatement un bataillon de 100 Français qui avait la tête du comité de le colonel Tauzet et d'autres camarades. Les Espagnols, qui étaient bien plus armés que nous, puisqu'eux-mêmes tenaient l'armurerie, nous ont armés tous, ainsi que les Soviétiques, ainsi que les autres nations, les Tchèques, et automatiquement, il y a eu des positions tout au l'entour du camp qui ont été placées en vue de sauvegarder le camp, parce que nous étions libres sans être libres. En ce sens que les Américains étant partis, nous étions laissés complètement à l'abandon. Et nous avons vécu du 5 au 7 mai une menace constante d'extermination directe. D'ailleurs, nous avons eu certains accrochages avec les SS et nous avons eu un camarade espagnol qui a été tué, je précise, vers le 6 mai, c'est bien après la libération, ainsi que 12 blessés. Et ce n'est que le 7 mai, réellement, que les Américains sont venus en masse. Et malheureusement, la première action a été de nous désarmer. Et je vous prie de croire que pour nous, les lutteurs du moment, je peux dire et avant et pendant, lorsque nous avons dû rendre nos fusils et nos revolvers, eh bien nous avions mal au cœur. Nous avions des choses terribles à faire. Le revire, où il y avait complètement typhus, où tout le monde voulait être sain, où il n'y avait rien à manger. Donc, aller réquisitionner aux alentours, mais pas d'une façon désordonnée, de façon qu'on ramène la nourriture au camp, faire du pain, et aussi protéger les peu de magasins de vivres des SS qu'il y avait. Après, alors, les Américains ont été beaucoup plus loin parce qu'ils ont mis des sentinelles partout et ça avait révolté l'ensemble des déportés contre les armées dans le camp. Parce qu'on ne laissait plus sortir, il faut être absolument des papiers.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était La libération de Mauthausen, le 17e de 27 épisodes de la série Le monde concentrationnaire, de Francis Crémieux avec Pierre Dex, Gérard London, André Taverdet et Émile Vallée, diffusé pour la première fois le 18 mai 1965 sur France Culture. À suivre.